Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'occasion de la célébration des 25 ans du courrier de Rome. Je n'y suis pour rien, il y a des responsables dans la salle qui ont été à l'origine de cette revue. Et il a semblé bon à ceux qui administrent actuellement la revue de profiter de cette occasion, non pas tellement pour vous parler de cette œuvre, parce que nous pouvons parler d'une œuvre, d'un apostolat de la vérité, mais des raisons pour lesquelles nous continuons cette œuvre du courrier de Rome et ce combat doctrinal. Souvent nous entendons ces réflexions, nous avons la messe, nous avons nos prêtres, pourquoi aller s'occuper de ce qui se passe ailleurs? Pourquoi se battre? Pourquoi créer même des scandales en révélant ce qui se passe à droite ou à gauche? Ces réflexions, ce n'est pas la première fois qu'on les entend. On pourrait parcourir toute l'histoire de l'Église et souvent on a reproché à ceux qui défendaient la doctrine contre les erreurs, les hérésies, de troubler la paix des chrétiens. Et j'ai trouvé, c'est dans les œuvres de Saint-Hilaire, ce petit passage qui semble pouvoir nous aider à mieux comprendre l'importance de ce combat. Saint-Hilaire a souvent, lui qui a vécu à l'époque de l'arianisme, à l'époque de Saint-Athanase, et qui a été un des rares évêques à défendre Saint-Athanase, c'est-à-dire à défendre la doctrine catholique, alors que tous les épiscopats mondiaux étaient tombés dans l'hérésie, il a été attaqué et accusé de fauteur de troubles. Il mettait la division. Et il a écrit, sous le beau nom de paix, nous glissons petit à petit dans l'unité de l'hérésie. Il dit le nom de la paix certainement admirable et belle la pensée de l'unité. Mais qui peut croire qu'il existe une autre paix et une autre unité en dehors de l'Église et des Évangiles, c'est-à-dire en dehors du Christ? Défendre la vérité, lutter contre l'erreur, c'est avant tout défendre notre Seigneur et défendre ce qu'il est venu nous apporter, c'est-à-dire l'Évangile. Monseigneur de Ségur, qui est le fondateur de l'œuvre de Saint François de Sales, qui a vécu au siècle dernier, a écrit « La vraie charité consiste à sauver les âmes et non à les laisser périr sous prétexte de ne pas faire de mal à ceux qui les tuent. » Je crois que cela correspond assez bien à la mentalité qui existe, je ne dis pas parmi nous, mais dans le monde actuel. On a mis comme valeur suprême l'unité, la paix. Et on oublie que la paix, que l'unité est au service de la vérité. Brièvement, je voudrais non pas vous donner tous les faits, toutes les circonstances de la situation actuelle de l'Église, mais bien vous montrer que nous sommes loin d'un renouveau, que la gravité de la situation continue, si ce n'est pas pour parler qu'elle empire. Je vous donnerai quelques faits, et surtout vous montrer comment nous devons réagir, comment l'Église, surtout depuis 150 ans, a réagi, de grands hommes d'Église, et si nous voulons suivre l'esprit de l'Église, ce que nous-mêmes nous devons faire. Vous connaissez, ou vous avez entendu parler, de certains événements récents. Par exemple, début octobre, à l'occasion de la fête de Sainte Catherine de Suède, il y a eu une réunion à Saint-Pierre de Rome avec le pape et les évêques anglicans venus de Suède. Et ils ont prié ensemble dans Saint-Pierre. Et ces évêques anglicans, pour la circonstance, ont revêtu la chape et la mitre. Alors que ces évêques, entre guillemets, ne sont que de simples laïcs, ce sont des pasteurs qu'on a déclarés évêques, qui ne sont ni ordonnés prêtres, ni consacrés évêques. Le 7 mars 91, et on voit cela dans l'Observatore Romano, le journal du Vatican, à l'occasion d'une réunion que le pape avait provoquée suite à la guerre du Golfe pour essayer de recomposer un peu l'unité. Il annonce qu'il espère, dès que cela sera possible, de faire une nouvelle assise, mais cette fois à Jérusalem. Le 7 décembre dernier, 91, à l'occasion du synode, et notez que ce dernier synode fut le premier où officiellement, comme on les appelle aujourd'hui les frères séparés, pour ne plus dire les fausses églises, des membres des fausses églises, ont participé au synode et sont intervenus. Il y a eu les orthodoxes schismatiques, des luthériens, des anglicans. Et le 7 décembre, il y a eu une célébration, ce qu'ils appellent célébration liturgique, dans Saint-Pierre, où on a prié pour l'unité et où des représentants de l'Église catholique ont demandé pardon au nom de l'Église du mal qu'ils avaient fait à leurs frères séparés au cours de l'histoire. Au cours du synode a été publié aussi le message de la paix pour le 1er janvier. C'est que c'est Paul VI qui a institué cette journée de la paix, qui en soi une bonne chose, mais tout dépend de la paix, de quelle paix on parle. Eh bien, le pape, dans son message de la paix qu'il envoie à tous les chefs d'État, donne des conditions pour établir cette paix. Le dialogue interreligieux et relancer l'esprit d'assise. Ça a été publié, tous les chefs d'État ont reçu cela. Et nous ne devons pas oublier que la journée d'assises fut une des journées les plus noires de l'Église catholique depuis 2000 ans. Ce n'est pas une exagération, mais c'est une constatation de dire que le fait d'assises, c'est une apostasie. Et on pourrait continuer. Je ne dis pas de prendre de ce qui se passe en France ou dans le monde, ce qui se passe à Rome même, pour montrer que nous continuons malheureusement toujours sur le même chemin. La clôture du synode a été faite en partie par le pape, qui a fait un discours à cette occasion. Lui-même n'a pas prononcé la parole, mais les journaux laïcs de Rome ont intitulé, pour synthétiser le discours du pape, « Constat de l'échec de l'œcuménisme ». À l'occasion, c'est du synode, un certain nombre de patriarches orthodoxes, schismatiques, ne se sont pas présentés. Et Rome a ressenti ça avec beaucoup de douleur à notre époque de dialogue œcuménique. Et à cette occasion, donc, les journaux ont parlé d'échec donc de l'œcuménisme. Et quelle a été la conclusion du pape devant ce bilan? Eh bien, relançons l'esprit d'assise, relançons le dialogue œcuménique. Alors nous voyons que nous sommes toujours sur le même chemin. Depuis quelques mois, il est intéressant de voir comment on commence à faire en quelque sorte, si vous voulez, l'histoire du Concile. On a commencé à avoir une certaine distance avec le Concile, et pour faire un bilan, il faut prendre du recul. Et des articles ont été écrits au sujet du Concile. Entre autres, dans une revue qui s'appelle Communio, qui passe pour une revue, je dirais, plutôt modérée. Ils ne se considèrent pas progressistes, puisqu'ils ont été fondés, en quelque sorte, contre la revue du Concilium qui avait été faite au début du Concile et qui regroupait Angscune et un certain nombre de théologiens sur la ligne d'Angscune. Il y avait même d'autres théologiens comme Ratzinger qui avait fondé Concilium, mais qui se sont retirés de cette collaboration pensant que Concilium allait trop de l'avant. Et ils ont fondé la revue Communio. Il y a quelques mois, la revue Communio a fait un bilan de 25 ans du Concile. Et je crois que ce qu'écrit le responsable de la rédaction allemande de la revue Communio est assez éclairant pour nous. Ce que je vous dis maintenant était un peu publié dans un de nos articles, je crois du mois de septembre du Courrier de Rome. Il dit « favorable ou adversaire du Concile Vatican II, tous voient avec ce Concile une grosse fracture par rapport à l'époque préconciliaire. Et il dit « cela n'est pas acceptable, car un Concile ne peut pas avoir d'autre but que de transmettre la tradition ». Ce sont des prémices intéressantes. Mais il avoue que ce concile ne fut pas un concile comme les autres, car il dit souvent un concile a été fait pour porter des remèdes à une situation critique. Et il dit, on ne peut pas dire que le concile a porté des remèdes à un certain nombre d'erreurs qui pouvaient circuler dans l'enseignement. Il dit ce concile a été plutôt l'enseignement de la foi de toujours dans une formule qui soit compréhensible aujourd'hui, le fameux aggiornamento du pape Jean XXIII. Et il continue. Pour faire cet aggiornamento, cet ajournement en quelque sorte de la doctrine de l'Église, les pères conciliaires durent s'appuyer sur les travaux des théologiens qui ont précédé le Concile. Et il dit, ces travaux ont été ceux des théologiens et la théologie catholique de la fin des années 50. Théologie peu connue par l'ensemble des évêques, mais c'est cette théologie qui a été en quelque sorte officialisée par le Concile Vatican II. Et il dit, c'est cette même théologie qui avait été condamnée par l'encyclique de Pie XII, par Pie XII et par le Saint-Office, par Humani Generis. Et il dit clairement, il dit, cette théologie qui avait été objet de censure a été reconnu par le Concile comme orthodoxe, dans ce qu'on appelle la nouvelle théologie, celle qui a été fondée par celui qui était le cardinal de Lubac, le père de Lubac, le père Danielou et d'autres, qui avaient été condamnés par Pie XII. Et officiellement, aujourd'hui, on publie que c'est cette théologie qui a été condamnée par Pie XII, par le Saint-Office, qui est devenue la doctrine officielle par le Concile. Et on pourrait continue, il dit beaucoup de choses intéressantes dans son article, et il dit aussi comment est née cette théologie, et ça nous montre aussi l'esprit dans lequel on a formé des générations de prêtres. Lui dit qu'il a fait ses études, ce père Enrici qui a écrit cet article, à Louvain. Et il dit qu'il y avait l'enseignement dit officiel, et puis il y avait aussi ce que pouvait conseiller le maître des études à ceux qui s'intéressaient plus à la théologie. Et il dit, par exemple, le maître des études conseillait les premiers chapitres du surnaturel du père Henri de Lubac, qui a été condamné par le Saint-Office. Il dit d'autres livres conseillés par nos maîtres furent « La vraie et la fausse réforme dans l'Église » par le père Congar, ou « Jalon pour une théologie du laïcat », ou « L'introduction à l'étude de saint Thomas d'Aquin » par le père Dominique Chenu. Et aujourd'hui, on le savait, que dans les scolastica jésuites ou dominicains, après la guerre spécialement, d'une manière non officielle, circulaient ces textes que le Saint-Office condamnait. Aujourd'hui, on s'en vante. Ce sont des publications tout à fait officielles. Et aujourd'hui, à la revue Communio, écrit non seulement le père Enrici, qui est un neveu du cardinal Urs von Balthasar, mais écrit aujourd'hui dans cette revue le cardinal Ratzinger, souvent il y a des articles du cardinal Ratzinger, qui est le préfet du Saint-Office, de l'évêque Casper, qui est évêque en Allemagne avec Lehmann. Casper nie la divinité de notre Seigneur, il ne croit pas aux miracles qui sont racontés dans les évangiles, on trouve ça dans ses livres. Il dit bien sûr, il y a tellement de miracles dans l'évangile qu'il y en a peut-être un ou deux qui sont vrais. Mais il l'écrit, et c'est lui qui a écrit, qui a rédigé le catéchisme officiel pour adultes de l'Allemagne, qui a été traduit pratiquement dans toutes les langues. Alors c'est une revue qui, on pourrait dire, bon, qui n'est pas patronnée, mais par la contribution des articles de Ratzinger, il donne un appui officiel à cette revue. Voilà ce qu'on enseigne. Que la théologie de Vatican II est la théologie, la nouvelle théologie qui avait été condamnée par Pie XII. Alors, vous me direz, mais il y a une contradiction avec ce qu'il dit au début de son article, lorsqu'il dit qu'il ne peut pas avoir de fracture avec la tradition dans le Concile. Il dit tout simplement, ce qu'a fait le Concile, c'est une théologie qui existait déjà depuis 25 ans. Et pour lui, depuis 25 ans, c'est déjà la tradition. Et le Concile n'a fait que reprendre cette théologie. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt des gens de notre bord qui racontaient cela. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes, les auteurs de la nouvelle théologie, les responsables du cours actuel de la théologie de Vatican II, qui affirment, qui démontrent comment ce qui est enseigné dans le Concile Vatican II est la théologie que Pie XII lui-même avait condamnée. Ce père Enrici a été interviewé à l'occasion des 25 ans de la revue Communio. Il n'y a pas que le courrier de Rome qui a 25 ans. Et il nous dit des choses intéressantes. Car il faut considérer la revue Communio à Rome, c'est considéré comme la théologie sérieuse. Ce n'est pas la théologie qui est avancée, mais c'est celle qui est équilibrée. Voilà ce qu'il dit à propos de la revue. Notre ligne est celle du centre extrême. Est-ce qu'on veut être plus centre extrême, c'est lui qui dit ça. Elle n'a pas une excessive attention au magistère. Elle n'est pas aussi en contestation, ni à droite, ni à gauche. Attachement à la tradition dans la ligne de la théologie nouvelle de Lyon, qui souligne la non-contradiction entre nature et surnature, entre foi et culture, et qui est devenue la théologie officielle de Vatican II. Il réaffirme officiellement que la nouvelle théologie, celle qui a été condamnée par Pie XII, est devenue la théologie officielle de Vatican II. Il n'y a pas meilleure démonstration pour montrer la rupture qu'a faite Vatican II avec toute la tradition de l'Église. Pourquoi Pie XII a condamné la nouvelle théologie? Parce qu'elle n'était pas conforme avec l'enseignement constant de l'Église. Et de Lubac a enseigné, pour lui, il refusait la gratuité du surnaturel. Ce serait trop long d'expliquer ça, mais il dit que notre nature humaine exige en quelque sorte la surnature, et qu'en quelque sorte notre nature possède déjà le surnaturel et qu'il n'y a pas de différence, alors que nous savons que la vie surnaturelle est un nom gratuit de Dieu qui nous vient d'en haut et qui ne naît pas de l'intérieur. Alors Pie XII a condamné tout cela. D'autre part, lorsque... Je ne veux pas faire de jugement téméraire, mais quand le cardinal Ratzinger nous parle de la tradition, dans quel sens entend-il tradition? Est-ce que c'est dans le sens que nous l'entendons, c'est-à-dire le sens que l'Église, avec la manière qu'elle a défini la tradition, ou dans le sens de la théologie nouvelle, et c'est de Lubac qui avait inventé le terme de tradition nouvelle? Lorsque le père, dans cet article, parle de la tradition dans la ligne de la nouvelle théologie, on peut très bien penser que c'est ce nouveau concept de tradition vivante, qui ne correspond pas au concept traditionnel de la vraie tradition. Et donc, il est possible que lorsque le cardinal Ratzinger parle de tradition, il parle de cette nouvelle tradition qui n'a rien à voir avec ce que l'Église a toujours enseigné. Et pour vous montrer à quel point l'ensemble de la hiérarchie de l'Église est imbu de cette théologie nouvelle, il explique que les trois fondateurs de la revue Communio ont été choisis par le pape et créés par le pape cardinal, Balthasar, de Lubac et Ratzinger. Et il dit ensuite la seconde génération qui a collaboré à la revue ont été choisis comme évêques. Il suffit de penser à Lehmann, à Casper et à d'autres évêques de ce genre-là. Alors nous voyons que nous sommes loin d'un renouveau. Et je dirais même que la restauration, on a parlé de la restauration du cardinal Ratzinger, il est de plus en plus clair que cela recouvre une critique à certains abus du concile ou des réformes post-conciliaires. Le cardinal Danielou, à la fin de sa vie, a dénoncé les abus dans l'Église. Le cardinal de Lubac a aussi critiqué un certain nombre d'abus dans l'Église actuelle. Le cardinal Ratzinger, avec son livre sous forme d'interview avec Messori, critique un certain nombre d'attitudes de la hiérarchie aujourd'hui. Le cardinal Urswald Balthasar, a critiqué aussi les abus des progressistes. C'est vrai. Mais ces quatre messieurs, c'est eux qui ont mis le feu à la baraque. Mais ils ne pensaient pas tout incendier. Alors maintenant, ils se plaignent qu'on a été trop loin. Mais c'est eux qui ont mis le feu. Et le problème grave, lorsqu'ils critiquent l'étendue de l'incendie, ils refusent de reconnaître qu'ils en sont les principes et que ce sont eux qui sont à l'origine de cette nouvelle théologie. Le cardinal Ratzinger, qui reconnaît lui-même qu'il a été trop loin à une certaine époque de sa vie, il a même en Allemagne retiré certains livres du commerce, entre autres un livre sur l'Eucharistie. Cela n'empêche pas que ces livres, même ceux qu'il a retirés en Allemagne, continuent à être publiés, à être traduits dans toutes les langues du monde. Et je vous donne ce témoignage qui m'a été dit par un prêtre qui déjeunait avec le cardinal Ratzinger. Et au cours du repas, le cardinal Ratzinger a dit combien il était heureux qu'un de ses livres ait été traduit et publié en japonais. Et bien humblement, ce prêtre lui a dit « Mais Éminence, ce n'est pas le livre que vous avez retiré du commerce en Allemagne. » Il a dit « Si. » Mais il a dit « La situation est diverse. Ils n'en sont pas encore là, ils vont faire leur évolution. » Il y a un cheminement dans la théologie. Ce qui lui semble, pour l'Allemagne, trop avancé aujourd'hui, ben, comme le Japon est en retard, ils ont encore tout un cheminement à faire. Et que ce livre qu'il a écrit, comme il dit, « Olim », souvent lorsqu'on l'attaque sur des écrits passés, il dit « Olim ». Autrefois, aujourd'hui, j'ai évolué. Mais pour l'Allemagne, son livre, qui n'est pas conforme à la doctrine de l'Eucharistie, il le retire. Pour le Japon, il le laisse et le publie. Incompréhensible cette mentalité. Et ça montre bien cet esprit du cardinal Ratzinger et de toute la théologie moderne, ce qu'on appelle l'historicisme, que la vérité dépend de l'époque où l'on vit. Et ce qui explique aussi certaines déclarations du cardinal Ratzinger lorsqu'il dit que la liberté, les condamnations de la liberté religieuse par Pie IX dans le Syllabus sont tout à fait en opposition avec la déclaration de Vatican II. Alors on peut dire, mais finalement, il l'a compris, puisqu'il dit « à opposition entre les deux conceptions ». Mais pour lui, cela ne pose aucun problème. Il dit « Pie IX a bien fait, pour son époque, de condamner la liberté religieuse, parce que dans le cadre du XIXe siècle, c'était un danger ». Mais aujourd'hui, le monde a évolué et donc il n'y a pas de problème pour la liberté religieuse. Le problème se pose différemment. Et donc la vérité pour ces gens-là ne transcende plus le temps, mais la vérité est variable suivant les époques. Alors c'est pour vous montrer où on en est aujourd'hui. Et je dirais que c'est la doctrine la plus officielle de l'Église. Si vous prenez les textes, les encycliques du pape ou des textes qui émanent du Saint-Siège, maintenant on cite volontiers des textes d'Urnbol Balthazar, des citations de Delubac. On a même vu un texte du pape où il y avait une citation de Teilhard de Chardin. C'est la doctrine aujourd'hui officielle. Alors quelle doit être notre attitude face à ces erreurs doctrinales? Parce que pour nous, ce qu'a dit Pie XII a toujours la même valeur. Ce n'est pas parce que 25 ans ou 30 ans se sont passés que les textes de Pie XII n'ont plus de valeur. Lorsqu'il condamnait le père de Lubac, parce que son enseignement n'était pas conforme à la tradition de l'Église, ce n'est pas parce que 30 ans sont passés qu'aujourd'hui, ces thèses du père de Lubac sont conformes à la tradition de l'Église. Il reste en opposition avec la doctrine traditionnelle de l'Église. Alors, pour savoir quelle est notre attitude à suivre aujourd'hui, eh bien, il est simple. Voyons ce que l'Église a fait au cours des siècles, au moins depuis deux siècles, lorsque se sont présentées des nouveautés ou des hérésies. Il y a eu toujours cette opposition entre novateurs et conservateurs, les nouveautés et les défenseurs de la tradition. Alors, depuis deux siècles, vous avez eu les libéraux, les modernistes, le néo-modernisme, le progressisme. Et il y a toujours eu cette défense de la vérité. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Pie XII, qui défendait la vérité, c'est clair. C'était Rome, c'était le Saint-Siège, la papauté. Pensons aux libéraux. Qu'est-ce qui a condamner le libéralisme? Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII. Qui a condamné et dénoncé les modernistes? Pie X, Saint Pie X, les néo-modernistes, le pape Pie XII, le Saint-Office, Humani Generis. Alors nous avons eu et nous avons vécu pendant des dizaines d'années avec des papes et une curie romaine qui défendaient la tradition. Et le malheur, c'est que petit à petit, les modernistes ont infiltré la curie romaine, ont pris les places, et on arrive aujourd'hui à la Rome actuelle qui ne défend plus la tradition et qui va jusqu'à condamner la tradition. Alors on pourrait se poser ce problème. Nous savons qu'il y a un devoir de défendre la vérité, que la vérité doit triompher sur l'erreur. Comment est-ce possible que ça soit le libéralisme, le progressisme, le modernisme qui triomphe? Il y a une espèce de mystère. Je dirais, un demi-mystère. Si nous ne croyons pas cela, ou si cela nous pose une difficulté, c'est que nous vivons avec une mentalité, que nous le voulions ou pas, naturaliste et libérale. Et nous pensons que la vérité finira par triompher par elle-même. Ce n'est pas la peine de lutter, de toute façon, la vérité doit gagner. Eh bien, cela, c'est oublier le péché originel. C'est oublier que notre intelligence est faible, sujette à erreur. Et c'est ce qu'explique très bien Louis Veuillot dans L'illusion libérale. Il dit « Le libéralisme a du succès parce qu'il favorise, il satisfait, il suit le penchant de la nature humaine, c'est-à-dire de la nature déchue par le péché originel. On cherche la facilité, on refuse le combat. Et si on se laisse aller, il est clair qu'on cherche les choses faciles. » Essayons maintenant de voir quelle fut cette lutte et les moyens qui ont été employés contre le modernisme, contre le progressisme. Car trop souvent, on présente Mgr Lefebvre comme un cas isolé, le cas particulier, en quelque sorte l'enfant difficile de l'Église. Et cela est faux. Ce n'est pas vrai. Depuis le siècle dernier, puisqu'on reprend, si vous voulez, la crise à partir du libéralisme, on pourrait prendre avant, à tous les moments difficiles de l'Église, il y a toujours eu des hommes d'Église, avant c'était surtout les papes, la curie romaine, qui se sont levés pour s'opposer et dénoncer l'erreur. Je sais qu'on n'a pas besoin de savoir que d'autres ont parlé avant Mgr Lefebvre, que d'autres ont défendu la vérité pour savoir que Mgr Lefebvre a raison. Mais je pense qu'il est encourageant, il est consolant et réconfortant de savoir que Mgr Lefebvre n'est pas un cas isolé, mais c'est un évêque qui a pris la suite de grands défenseurs de l'Église de la vérité au cours des siècles. Il a suivi ceux qui furent pour l'Église, on peut dire, des colonnes de la vérité, des héros de la foi. Alors reprenons certaines encycliques, certaines déclarations. Une encyclique que nous connaissons bien, qu'il faudrait relire souvent, c'est l'encyclique contre le modernisme. Je voudrais vous rappeler quelques faits. Saint Pie X dit « Pour mieux pénétrer le modernisme et trouver plus sûrement à une plaie si profonde les remèdes convenables, il importe de rechercher les causes qui l'ont engendré et qui l'alimentent. » Et Saint-Pie X donne trois causes de la crise moderniste. La curiosité, l'orgueil et ensuite l'ignorance. La curiosité intellectuelle, c'est-à-dire la recherche des nouveautés, ce que condamnait déjà saint Paul. L'homme est à la recherche de fables, de tous ceux qui parlent du progrès et de la nouveauté. Ensuite, l'orgueil. On ne veut pas être à la suite des autres. On ne veut pas faire nôtre la doctrine enseignée par notre Seigneur. C'est humiliant pour l'homme de se soumettre à la doctrine d'un autre, à une vérité, car ce n'est pas notre vérité, c'est la vérité enseignée par notre Seigneur. Ce n'est pas notre théologie lorsque nous enseignons, c'est la théologie de l'Église. Et un professeur me disait récemment à Rome que cette conception aujourd'hui de la théologie est une absurdité. Aujourd'hui, on parle de la théologie de Ratzinger, la théologie de Lubach, la théologie d'Urnval Balthasar. On n'a jamais entendu cela dans l'Église. Les théologiens, ceux qui étudiaient, ils prenaient un sujet, l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'était leur théologie? Ils cherchaient ce que l'Église, au cours des siècles, avait enseigné sur l'Eucharistie. Et le but d'un théologien, c'était de faire la synthèse la plus complète et la plus claire possible pour mettre en évidence la doctrine eucharistique. Aujourd'hui, plus personne ne fait cela. Un théologien moderne, c'est celui qui va présenter sa thèse personnelle, son explication à lui de la présence réelle, s'il croit encore à la présence réelle. On ne transmet plus, on fait sa vérité, sa doctrine. Et c'est pourquoi Saint Pie X les dénonce très bien. Il parle de curiosité aussi, l'orgueil. Car faire de la théologie, faire enseigner la doctrine, demande une soumission, demande de se soumettre. Et Saint Pie X cite le pape Grégoire XVI dans son encyclique. Et Grégoire XVI expliquait: c'est un spectacle lamentable que de voir jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté, que contrairement à l'avertissement de l'apôtre, l'on prétend à savoir plus qu'il ne faut savoir, et que se fiant trop à soi-même, l'on pense pouvoir chercher la vérité hors de l'Église, en qui elle se trouve sans l'ombre de la plus légère erreur. Et cette curiosité de savoir constamment ce qu'ont enseigné, par exemple, les protestants sur telle ou telle doctrine. Ensuite, il dénonce aussi l'ignorance. Saint Pie X dit que la caractéristique d'un moderniste, c'est sa haine pour la scolastique, c'est-à-dire sa haine pour la doctrine de Saint Thomas, qui a précisé la doctrine catholique, qui a mis en évidence tout l'enseignement de notre Seigneur. Après avoir constaté la source du modernisme, ce qui est à l'origine chez l'homme du modernisme, que dit Saint Pie X? À ces trois choses, il faut faire une guerre acharnée. Et Saint Pie X pour lui, il ne se suffit pas d'analyser la situation. Il dit, lorsqu'on trouve la cause du mal, il faut détruire cela, aller à la racine du mal pour retirer les causes du mal. Et toute l'encyclique de Saint Pie X est sur ce ton-là. Il veut que l'on fasse la guerre à ce qui est à l'origine du modernisme pour sauver la doctrine catholique. Car si on n'attaque pas le modernisme à sa racine, si on ne prend pas des moyens pour empêcher la diffusion du modernisme, il est clair que l'ensemble de la chrétienté va se réveiller moderniste. Et lorsque Saint Pie X a fait son encyclique contre le modernisme, il a pris un certain nombre ensuite de sanctions. Aujourd'hui, lorsqu'on dénonce, on ne prend pas les sanctions correspondantes. Saint Pie X a dit très clairement, ceux qui enseignent ces doctrines doivent être condamnés, ne doivent plus enseigner dans les séminaires, ne doivent plus être professeurs d'université. Aujourd'hui, on parle d'erreur, mais on laisse ces professeurs diffuser l'erreur. On pourrait faire le parallèle avec un pharmacien qui s'aperçoit que un de ses médicaments eh bien, n'est pas bon pour la santé, c'est plutôt un poison. Il se contenterait d'écrire « ce médicament est un poison », mais il continue à vendre sa marchandise. On dirait l'incohérence. Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui bien souvent auprès d'évêques. Ils reconnaissent que ce n'est pas brillant, leurs professeurs dans leur séminaire, mais on les laisse. Ensuite, il y a eu d'autres après Saint Pie X, vous voyez. Il y a une revue en Italie qui s'appelle la Civita Cattolica, qui est une revue qui a été écrite et qui existe encore par les Jésuites. Et il y a le père Messineo, qui est un Jésuite, qui a écrit de nombreux articles mettant déjà en garde contre le progressisme. Il a fait des articles des années 1950 à 1956, où il dit, il parle de l'historicisme progressiste, du progressisme contemporain, de l'évolution historique et du progrès de la vérité, de la conscience subjective, de l'évolution historique, de l'humanisme intégral. C'est une condamnation et une analyse très forte contre Maritain. Il parle aussi de la libre recherche de la vérité, un article écrit en 1950 contre les dangers de la liberté religieuse. Et il dit dans son article que certains théologiens voudraient faire admettre comme une doctrine de l'Église la liberté religieuse. Alors on ne peut pas dire que cette crise ou la doctrine qui nous est présentée aujourd'hui soit apparue d'une manière tout à fait inattendue, durant le Concile ou après le Concile. Des théologiens, ce qu'on appelle ceux qui représentaient la théologie romaine, de ces grandes universités romaines, que ce soit à la grégorienne par les jésuites, ou encore à l'angélique avec le père Garrigou-Lagrange, qui a attaqué d'une manière très forte ce qu'on appelle la nouvelle théologie, ont averti non seulement Rome, mais les évêques, de ces dangers pour l'Église. Mais personne n'a tenu compte de cela. Il y a eu, en 1960, un article qui a été écrit par un monseigneur du Vatican, c'était monseigneur Roméo, qui a écrit cela dans une revue qui s'appelle Divinitas. C'est une revue qui est éditée par le Vatican, par une société, disons un groupe de théologiens plutôt conservateurs. Un article qui a suscité à Rome une très grande polémique. Bon, ce serait trop long de retracer toute l'histoire de l'origine de cet article. C'est au sujet des questions d'écriture sainte. Le pape Pie XII a fait une encyclique qui s'appelle, sur l'écriture sainte, qui s'appelle Divino Afflante Spiritu. Et des théologiens progressistes ont essayé de dire qu'avec cette nouvelle encyclique de Pie XII sur l'écriture sainte, Pie XII avait accepté ce qu'on appelle la nouvelle exégèse, c'est-à-dire cette exégèse progressiste qui n'est rien d'autre que l'acceptation de la part de certains catholiques de l'exégèse protestante. Et il a dénoncé, avec un article, je dirais, certainement assez virulent, fort, le danger de ces nouveaux professeurs, car celui qui avait écrit cet article à Rome dans la Civita Cattolica par les jésuites pour montrer que Pie XII acceptait la nouvelle exégèse était professeur à l'Institut biblique, c'est-à-dire cet institut à Rome qui dépend de la grégorienne, des jésuites et qui forme tous les professeurs d'écriture sainte de tous les séminaires du monde. Normalement, pour être professeur d'écriture sainte, il faut avoir des titres et on obtient ces titres spécialement à Rome, à cet institut biblique. Et ces professeurs refusent spécialement l'inspiration biblique, c'est-à-dire que toute l'écriture a été inspirée par l'Esprit-Saint. Si, et à cela pour conséquence, que si l'Esprit-Saint assistait les rédacteurs des évangiles, des épîtres, etc., les textes ne contiennent pas d'erreur, ce qu'on appelle l'inhérence biblique. Il n'y a pas d'erreur. Il y a une certaine garantie qui a été donnée par l'Esprit-Saint. Eh bien, cela est refusé. On veut limiter l'assistance de l'Esprit-Saint à ceux qui regardent simplement les doctrines, ce qu'ils appellent les doctrines de salut. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire dans l'Évangile ou les Épîtres, ceux qui regardent plus spécialement le salut et ceux qui ne regardent pas le salut? Donc, chaque théologien pourra dire, bon, ça, c'est absolument vrai. Le reste est sujet à erreur. Donc, ce prêtre qui était un saint prêtre a fait un article fort où il dénonce le progressisme. Et il dit, le progressisme moderne est l'antitraditionalisme. Et il parle de cette dialectique entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et la transformation, entre la force et le progrès, etc. Et son article a été lu à Rome, puisque des professeurs, suite à cet article, des professeurs de l'Institut biblique ont été chassés, deux professeurs du temps de Jean XXIII, et lorsque Paul VI a été élu, il s'est empressé de rappeler ces deux professeurs. Et celui qui dirigeait cette revue, qui était Mgr Piolanti et le recteur de l'Université du Latran, on lui a trouvé un prétexte pour lui retirer sa charge. Mais aujourd'hui, lorsqu'on écrit l'histoire de la préparation du Concile, tous les historiens, que ce soit progressistes ou conservateurs, citent cet article qui avait été une véritable bombe à l'époque à Rome. Donc c'était une mise en garde et tout le monde avait lu cela. On pourrait citer ce que des passages du cardinal Octaviani. Je sais que le cardinal Octaviani a beaucoup de mérite. Bon, il était romain, alors il avait une manière souvent de s'adapter face aux difficultés. Mais quand même, il a été fort. On lui prête un certain nombre de phrases, comme il dit « Je prie Dieu de me faire mourir avant la fin de ce concile, car au moins je mourirai catholique. » C'est ce qu'il avait dit. Il avait aussi écrit et réuni tous les membres du Saint-Office à l'occasion de la réforme du Saint-Office, ou pratiquement retiré au Saint-Office son pouvoir. Paul VI a fait une réforme du Saint-Office afin que le Saint-Office devienne la congrégation pour la foi, la proclamation de la foi, et non plus celle qui condamnait l'erreur. Et il a dit à ceux qui travaillent avec lui, il a dit, c'est le jour aujourd'hui le plus noir du gouvernement de l'Église. Et il disait aussi, lorsque Paul VI a fondé la Commission théologique internationale, il a dit, ça a été fait pour aller contre le Saint-Office et contre les défenseurs de la doctrine catholique. Ensuite, il y en a d'autres qui ont écrit. Hein. Le livre de Mgr Carli, qui a été l'évêque de Gaët jusqu'à, je ne sais plus la date, mais ça coïncide avec la visite du pape à la synagogue de Rome. Je me souviens qu'il est mort quelques jours après, et je pense très certainement de douleur, puisque c'était un des rares évêques qui a eu le courage de défendre la doctrine de l'Église au cours du Concile au sujet de l'attitude que l'Église a toujours eue vis-à-vis du peuple juif, et de dire, et ce qui a toujours enseigné l'Église, c'est ainsi que le peuple juif est déicide. Aujourd'hui, on ne veut plus dire cela, on ne veut plus reconnaître cette réalité, ce fait. Eh bien, c'est le seul évêque à peu près qui s'était défendu. Et il a écrit tout un livre sur le Concile, Nova et Vetera, où il attaque d'une manière forte le progressisme. Et ce livre, je peux vous dire, a circulé à Rome et est connu à Rome. Mais on en fait peu de cas. Et on peut constater que beaucoup se sont levés, et beaucoup avant nous, se sont levés pour protester contre cette nouvelle théologie, contre ces nouvelles doctrines qui rongent et anéantissent petit à petit l'Église. Certains pourraient penser, oui, ce sont des hommes d'Église, ils sont admirables, mais ils ont eu une vocation particulière. Ils n'ont pas eu une vocation particulière. Ces hommes d'Église ont fait leur devoir. Et si aujourd'hui on en est là dans l'Église, la faute en est en grande partie non pas tellement aux ennemis de l'Église, mais je dirais aux bons et aux bien-pensants qui ont manqué de courage et ainsi n'ont pas fait leur devoir pour défendre l'Église. Saint Pie se plaignait de cela. Nous avons peur d'élever la voix, nous avons peur de dénoncer l'erreur. Et cela fait partie de nos devoirs. Il y a l'ancien code de droit canonique, vous avez le canon 1325, dans le premier paragraphe, il dit « Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances où leur silence, leurs hésitations ou leur attitude signifieraient une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. » Donc c'est un devoir de défendre la doctrine de notre Seigneur, de l'Église, lorsqu'elle est attaquée. Donc se taire aujourd'hui équivaut à laisser croire que nous acceptons. Il n'y a rien à faire. Ne pas attaquer les nouvelles doctrines, je n'ai pas pour nous-mêmes, si nous savons que cela est faux, mais pour beaucoup de chrétiens, si vous ne protestez pas, ils diront, bon, si M. Untel ou M. l'abbé Untel n'a rien dit sur le dernier livre qui est sorti ou sur telle parole du cardinal ou du pape, donc c'est bien. Au contraire, lorsqu'ils entendent des voix qui s'élèvent pour dénoncer tel ou tel discours, tel ou tel livre, ils font attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour cela, je vous donnerai cette attitude que l'Église a toujours eue, l'exemple du pape Honorius. Donc c'est un pape du 7e siècle pour l'hérésie qu'on appelle du monothélisme, qui n'avait qu'une seule volonté dans le Christ, qui a deux natures. Face à cette hérésie, le pape Honorius s'est comporté d'une façon évasive. Il s'est dérobé, il refusait d'expliquer. Dans une certaine façon, il a refusé de prendre position. Le quatrième concile œcuménique contient une condamnation contre Honorius, en même temps que contre les principaux monothélistes de cette époque. Lorsque le concile a demandé l'approbation au pape Léon III, normalement, le concile a été fait par les évêques, mais il fallait l'approbation, la signature du pape. Au lieu d'accepter l'anathème lancé contre le pape Honorius et de le placer sur le même rang que les hérétiques monothélistes. Le pape fait une importante distinction. Il dit « Nous condamnons aussi Honorius, qui n'a pas fait resplendir de la doctrine apostolique cette Église de Rome, mais par une trahison profane a laissé la foi qui doit être sans tache exposée à la subversion. » Donc, le pape Léon II condamne son prédécesseur, pas tellement pour son attachement à l'hérésie, mais pour son refus de ne pas avoir dénoncé cette hérésie et de ne pas avoir mis en évidence la doctrine de l'Église catholique. Alors c'est notre attitude que nous devons avoir face aux erreurs, cet amour de la vérité. Oui, il y a une très belle phrase de Mgr Ducos-Bourget. Il dit « Je n'ai pas besoin de découvrir la part de vérité qu'il y a dans toute erreur. J'ai besoin de la vérité entière, totale, intégrale, la seule conforme à l'être. Je veux la vérité saine, en parfaite santé. Je la possède dans le Christ et dans l'unique Église, son Église. » Et cela répond très bien à, je dirais, ces fausses conceptions aujourd'hui que l'on a vis-à-vis d'une part de la vérité et en même temps cette fausse attitude que de nombreux chrétiens ont vis-à-vis de l'erreur. Le professeur Junier explique très bien cela. Nous savons tous que chez un hérétique, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a enseigné n'est pas forcément faux, n'est pas forcément une erreur. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit « Cela ne veut pas dire non plus qu'en dehors de la doctrine qu'on défende, tout soit faux dans les doctrines adverses. Les philosophes thomistes ne songent pas du tout à contester qu'il y ait des vérités chez Kant, chez Hegel, chez Marx, chez Bergson. Les théologiens catholiques ne veulent nullement nier qu'il y ait des vérités dans le protestantisme, le judaïsme. Mais la question qui se pose est tout autre. Il s'agit de savoir si ces vérités sont, si l'on peut dire, à l'aise, en liberté et chez elles, dans les doctrines adverses. Or, ce que nous pensons, c'est que ces vérités n'y ont qu'un rôle partiel, fragmentaire, incomplète, qu'elles sont enrobées dans les erreurs flagrantes, qu'il est gauchiste et en fausse la véritable portée, et qu'ainsi, ceux qui dominent dans une doctrine fausse et ce par quoi elle risque promptement d'être désastreuse, c'est l'esprit de cette doctrine, esprit d'erreur et de négation. Et cela est important, surtout dans l'œcuménisme actuel. On nous parle toujours des vérités que l'on trouve dans les autres religions. Mais cela, pour nous, n'a aucune importance. Qu'est-ce qui fait la différence entre la religion catholique et les autres religions? Ce n'est pas ce que nous avons en commun. C'est justement l'erreur qui nous sépare d'elle. C'est l'erreur qui est la caractéristique de ces fausses religions. Et c'est l'erreur qu'il faut mettre en relief. J'expliquais brièvement à Versailles comment c'est un esprit maçonnique de chercher continuellement avec ceux qui nous entourent, ils ne sont pas d'accord avec nous, les points d'union. Les points où nous sommes d'accord. Il faut chercher ce qui nous unit et pas ce qui nous sépare. Ce n'est pas l'esprit catholique. Si vous prenez les théologiens, les docteurs de l'Église pendant des siècles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leurs grands écrits, ce sont des disputes. On étudie ce qui nous sépare, ce qui fait la différence, car c'est cela qui met la vérité en relief, qui définit la vérité. Qui la précise. Et à ce sujet, il y a le Garrigou Lagrange, ce grand théologien, qui écrit « Dans une doctrine fausse dans l'ensemble, la vérité n'est pas l'âme de la doctrine, mais l'esclave de l'erreur. » Donc, je pense que dans le combat actuel que nous devons maintenir, nous devons nous mettre dans la ligne de ceux qui ont toujours défendu la doctrine de l'Église. D'autre part, il est une utopie de penser que nous arriverons un jour à un temps de paix, comme si le démon s'arrêtera un jour d'attaquer l'Église. Saint Paul l'explique bien, la vie est un combat. Et tant que notre Seigneur sera là sur la terre, tant qu'il sera représenté par l'Église sur cette terre, le démon luttera contre la vérité. D'autre part, ce que nous devons espérer, et c'est ce pourquoi nous cherchons à travailler, c'est espérer que nos pasteurs, que Rome, retrouvent un jour cet amour de la tradition, cet amour de la défense de la tradition, qui est pratiquement, on peut dire, le propre de la mission de Saint-Pierre. Confirme tes frères dans la foi. C'est la mission que donne notre Seigneur à Saint-Pierre. Et nous constatons qu'aujourd'hui, voir le chef suprême de l'Église ne pas être fidèle à sa mission nous fait souffrir. Je dirais, nous souffrons d'autant plus de voir cette situation que nous sommes attachés à l'Église. Et il est triste, souvent on dit, mais il ne faut mieux pas parler de la hiérarchie, de Rome, des papes. Et qu'est-ce que vous voulez ? On n'y peut rien. Récemment, il y a eu un colloque à Brescia, enfin, c'est récemment, il y a déjà quelques années, sur le pape Paul VI et les problèmes du concile. Et le cardinal Poupard, un Français, a parlé de Paul VI et de ses théologiens préférés. Et devant une assemblée de professeurs, il a dit « De Lubac, Congar, Maritain. » Donc nous le savons. Alors cette question du pape, je dirais, est toujours une question douloureuse pour nous. Mais je crois qu'il faut remettre cette question du pape toujours dans l'histoire de l'Église. Vous voyez, l'histoire doit être une leçon pour aujourd'hui. Saint Vincent Palotti a écrit: certains papes, Dieu les veut directement. D'autres, Dieu les permet. Et d'autres encore, Dieu les tolère. Alors je pense que ce qu'il a écrit n'est pas irrespectueux, ni hérétique, puisque l'on a canonisé Vincent Palotti. C'est Saint Vincent Palotti, et lorsque il y a des canonisations à Rome, on n'examine pas seulement la vie de la personne, mais aussi ses écrits. Je crois que, et c'est ce que cherche à faire le Courrier de Rome, déjà par certaines publications, comme la vie de Saint Pidis, et ce que nous espérons au cours de l'année, de republier ses œuvres comme pape, de retrouver ce courage qu'a eu Saint Pidis, oui, et l'attitude qu'il a eue dans la lutte contre le modernisme. Il a eu l'attitude d'un saint, d'un homme de foi. Saint Pidis n'a pas cherché à plaire au monde. Il n'a pas cherché à attirer les foules. son but principal était l'honneur de notre Seigneur. Et il savait que plus il serait fidèle à notre Seigneur, plus il défendrait sa doctrine, plus il travaillerait au triomphe de la vérité et de l'Église, et en même temps au bien des âmes. Nous savons, Saint Pidis a eu des ennemis durant sa vie et même après sa mort. Vous avez peut-être lu, mis ça dans l'introduction ou dans un article au sujet des œuvres que nous allons publier de Saint Pidis. Un père abbé bénédictin a écrit, qui avait suivi un peu tous ces procès de béatification, de canonisation de Saint Pidis, qu'il a eu de la chance d'être canonisé, parce que si on avait un peu attendu avec Vatican II, ça n'aurait pas été possible. Il dit tellement les modernistes avaient infiltré le Vatican, et il faut penser que sous Pie XII, ils ont tout fait pour empêcher cette canonisation, cette béatification. Et c'est des interventions personnelles du pape Pie XII qui ont fait qu'il a été canonisé. Parce que le responsable de la congrégation pour les canonisations ne voulait pas entendre parler de cela. Ils avaient mis tout son dossier aux archives, et c'est Pie XII qui l'a fait ressortir des archives. Et quelle était l'attitude, et je trouve cette phrase, elle a déjà été publiée, très belle, de Saint Pidis. Il écrivait ça à un prêtre du nord de l'Italie en 1912. Et je crois que ça doit être notre attitude dans le combat actuel. Il dit « Les compromis ne convertissent pas un seul de nos adversaires. Par contre, ils apportent le plus grand dommage aux bons qui cherchent la lumière et trouvent les ténèbres. Notre bannière doit être déployée, et seulement avec la loyauté et avec la franchise, nous pourrons faire quelque chose de bien. » Je crois que cette phrase de Saint Pidis devrait être un peu notre devise, vous voyez, dans la situation actuelle. Trop souvent, on fausse les perspectives. Et je dis, on interprète même, sous prétexte d'un faux zèle, les paroles de notre Seigneur. Qu'a dit notre Seigneur à ses apôtres avant d'aller au ciel ? Allez enseigner les nations et baptisez-les. Il n'a pas parlé de conversion, mais il a parlé de proclamation de la vérité, de transmettre ce que lui-même avait dit. Aujourd'hui, dans les préoccupations de l'Église dite officielle, s'ils ont encore cette préoccupation, on cherche à convertir. Et on pense que pour convertir, il faut plaire. Et pour plaire, il faut s'adapter à la condition de l'homme d'aujourd'hui. C'est faux. Au cours de 2000 ans d'existence de l'Église, personne n'a jamais converti un autre. La conversion est une grâce du bon Dieu. Et la conversion a pour condition la connaissance intégrale du message de l'Évangile. Et c'est dans la mesure où on proclame l'Évangile, la doctrine, en son entier, sans adaptation, qu'il y a des conversions. Mais lorsqu'on commence à toucher à la doctrine, à l'adapter, la doctrine n'est plus incisive, elle ne porte plus, car ce n'est plus exactement ce que notre Seigneur a enseigné. Alors c'est important, c'est cette proclamation de la doctrine, cette défense de ce que notre Seigneur a toujours enseigné. Il n'y a pas de diplomatie, vous voyez. Ça n'existe pas, ce n'est pas une vertu chrétienne. Il y a la diplomatie au point de vue politique, c'est une autre chose. Mais dans l'Église, cela n'existe pas. Qui, aujourd'hui, pour nous, qui nous considérons comme les grands saints, comme les héros du christianisme. Eh bien, c'est ceux qui ont su défendre et proclamer à haute voix, sans peur de l'adversaire, la doctrine de notre Seigneur. Un saint Athanase, un saint Thomas d'Aquin, un saint Pidis. Ceux qui ont parlé avec force, avec clarté. Alors, tant que nous ne retournerons pas à cela, il y a peu de choses à espérer. Vous me direz, mais c'est dur. Eh bien, ce n'est pas la première fois que nous pouvons considérer que cela est dur. Souvenons-nous de l'Évangile, lorsque notre Seigneur a révélé aux foules la profondité, la hauteur ardue de ses doctrines. Les âmes orgueilleuses en furent indignées et les timides troublées. Et ils s'écrièrent, « Durus est hic sermo », ce sermon est dur, et ils ont abandonné notre Seigneur. Et au cours des siècles, l'Église n'a jamais fait autre chose. L'Église n'a pas peur que le désert se crée autour d'elle. L'Église, comme mère, certes pleurera les âmes qui se perdent, mais jamais elle ne peut trahir son mandat sacré. Jamais elle ne peut s'abaisser à trahir la vérité, à l'atténuer, à la cacher comme honteuse d'elle-même, à mendier les hommes d'un compromis avec l'erreur, à s'assujettir enfin à tous les changements de l'opinion du jour. Jamais l'Église ne peut faire cela sans trahir son maître. L'Église n'a pas besoin des hommes. Elle est sûre de la divine parole et elle doit la garder intacte à n'importe quel prix parce qu'elle est la vie et le salut du monde. Je crois que c'est sur quoi nous devons être convaincus. Quelle était la première mission de notre Seigneur, et je dirais même étant la seconde personne de la Sainte Trinité, le Verbe, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de la vérité, lorsque nous parlons de la doctrine, nous ne parlons pas d'autre chose que de la foi. Et nous savons que c'est ce qu'il y a de fondamental. Je ne veux pas dire que le reste n'a pas d'importance. On n'a pas besoin des sacrements. Ce serait une grave erreur. Mais, dans les cas extrêmes, la foi suffit pour se sauver. Pensons à ceux qui reçoivent le baptême de désir. Ils n'ont pas les sacrements. Mais, ceux qui les sauvent, c'est d'adhérer à ces vérités révélées. Et aujourd'hui, on fait cette constatation que les vérités révélées ne sont plus transmises. Et c'est plus transmis. On a des générations qui n'ont plus la foi. Car la foi, nous le savons, ne se contente pas de demi-vérités. Ou on a la foi, ou on n'a pas la foi. Et refuser un seul point de la doctrine, c'est déjà perdre, ne plus avoir la foi. L'Église a toujours enseigné cela. Alors c'est pour ça que ce combat doctrinal est important. On pourrait prendre depuis le début de la vie de l'Église, voir comment il y a eu toujours cette défense de la vérité. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à cette occasion. Bon, il reste peu de temps, je ne veux pas abuser de votre temps. Est-ce qu'il y a quelques questions ?